Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune. Christophe Jubien pour vous accueillir à bord de cette émission spéciale élection présidentielle. Mon invité, et je suis sûr que vous l'aurez deviné, s'appelle Jean-Pierre Gorge. Le député maire de Chartres vient d'annoncer qu'il était candidat à la magistrature suprême. Il sort ces jours-ci un livre intitulé « La France, c'est vous » dans lequel il expose son projet pour notre pays. Quelle est la nature de ce projet? C'est ce que nous allons apprendre dans la demi-heure qui vient. Jean-Pierre Gorge, bonjour.
Bonjour.
Ma première question sera la suivante. Quand l'idée de vous présenter à cette élection présidentielle vous a-t-elle effleuré pour la première fois, en fait?
Vous savez, moi, ce n'est pas en me rasant le matin, ce n'est pas à la naissance, ce n'est pas à l'école primaire. Non, moi, c'est une construction logique. Vous savez, j'ai passé ma vie dans la société civile. Là, ça fait une quinzaine d'années que je suis maire et parlementaire, ce qui me permet de voir beaucoup de choses, en tant que maire, d'en faire, surtout, faire beaucoup de choses. Et puis, au niveau national, et surtout avec cette participation à la commission des finances depuis 15 ans, ça me permet de vraiment voir la réalité de la France, l'état dans lequel elle est, et puis surtout les capacités de ceux qui la gèrent. Donc, et aujourd'hui, je suis comme effaré que on va se retrouver en 2017 avoir une élection présidentielle où on retrouve autour de la table tous ceux qui ont raté depuis 30 ans. Donc je me dis, c'est pas possible, je peux pas laisser faire. Donc, alors, dans le premier temps, je dis d'abord, je vais essayer de contribuer à tout ça. Donc, le mieux, c'est d'écrire. Alors c'est pas facile d'écrire, hein. Écrire quelque chose de cohérent, je sais faire, c'est plutôt mon côté scientifique, mais faire un bouquin pour que ça soit suffisamment vulgarisé pour que les gens comprennent, et ben c'est beaucoup de travail. Donc ça, depuis un an et demi, je fais des petites notes, des petites fiches, après je me raconte l'histoire sur chacune des fiches, et puis après cette histoire, eh bien j'essaye d'en faire un texte, plus ou moins bien, je le relis avec plusieurs, on le relit, on le transforme, on le façonne, et puis à la fin, ça fait un projet. Puis une fois que votre projet est ficelé, dedans, vous rajoutez une phrase en disant « je suis candidat à la présidentielle ». Voilà, c'est aussi simple que ça.
Mais est-ce que la décision a été facile à prendre? Est-ce que vous avez mis du temps à peser le pour et le contre?
Non, vous savez, moi, je ne suis pas quelqu'un qui prend des décisions comme ça, brutalement. De temps en temps, on dit « voilà, il est un peu autoritaire pour des décisions ». Non, c'est toujours réfléchi. Vous savez, dans la vie, on est dans une complexité parce que chacun a une philosophie, chacun fait une philosophie de la vie. Ensuite, sur chacun des sujets, vous passez un certain temps à analyser objectivement et puis à un moment donné, il va falloir faire quelque chose. Moi, j'ai quand même le culte de l'action. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que je bricole, quoi, vous voyez. Donc à Chartres, les Chartrains peuvent témoigner, mais alors on peut se tromper parce que sinon, si on se met à réfléchir tout le temps, il y a des gens qui réfléchissent tout le temps et qui finissent par rien faire, qui traversent leur vie sans rien faire. Moi, je ne suis pas de ce type-là. Donc voilà, maintenant que j'ai écrit le projet, j'ai une certaine philosophie, j'ai réfléchi sur le projet. Maintenant, il faut que je le fasse, quoi. Vous voyez, c'est plus fort que moi.
Alors, ça fait longtemps que vous pestez contre la professionnalisation de la politique, oui. Contre la caste des énarques, surtout. Alors, cette énarchie, par quoi vous voulez la remplacer?
Ah non, mais moi, les énarques, c'est pas un problème. Moi, contrairement à ces énarques défroqués comme Monsieur le maire, qui maintenant dit qu'il faut supprimer l'ENA. Donc, c'est incroyable. C'est-à-dire que les gens qui veulent enlever toutes les traces de leur vie. Non, je pense que l'organisation de nos territoires, de ce pays, de la France, a besoin de ce type de profil. Le problème, c'est que, et je commence ça dans mon livre, c'est que depuis 40 ans, ils ont franchi le mur. Ils sont devenus des politiques, vous voyez. Et on peut pas être des deux côtés en même temps. L'énarque fonctionnaire, haut fonctionnaire, doit rester neutre. Regardez ce que fait Monsieur Macron, vous voyez. Donc, alors, ça a commencé en 1974 avec Valéry Giscard d'Estaing, énarque, et Jacques Chirac. Vous voyez, vous avez un tandem, président, premier ministre, énarque. Et à partir de ce moment-là, la France part de travers. Et puis, regardez le résultat aujourd'hui. Donc, moi, je suis pas pour supprimer l'ENA, mais remettre les énarques à leur place. Et puis, dire que la politique, c'est pas de la professionnalisation. C'est-à-dire qu'on sort pas de l'école et on saute tout de suite dans l'environnement politique. On commence par aller dans la société civile, à travailler, à faire ses preuves, à construire, avant d'expliquer à tout le monde ce qu'est la vie. Donc ça, c'est important. Et puis, ce n'est pas la fonctionnarisation de la politique. Les fonctionnaires qui passent de l'autre côté, un fonctionnaire, ça doit être un fonctionnaire, c'est ni de gauche ni de droite. Donc il doit rester à sa place. D'ailleurs, je propose qu'un fonctionnaire ne puisse pas se présenter à une élection. S'il veut y aller, il doit démissionner. Donc voilà, ça, c'est quelque chose, vraiment un vrai changement.
Alors, et vous-même, vous êtes de droite? Vous êtes un libéral, vous situez où sur l'échiquier politique? Est-ce que vous avez envie de vous situer sur l'échiquier politique?
Non, justement, l'idée c'est de dire, ben, moi je suis pas de droite, pas de gauche, pas du centre. Alors les gens me classent plutôt centre-droit, libéral-social, ben, tout y va quoi. Mais tant mieux, parce que si tout y va, justement c'est ce qui fait ma particularité. Vous voyez, dans ce mandat, il y a des propositions de loi de gauche que j'ai votées. Bon, voilà. Et puis il y a des choses de droite qui étaient proposées précédemment, auxquelles j'ai voté contre, et des choses je me suis même vraiment lourdement posé. Et puis, ce qui est le plus drôle, pour moi, le plus drôle, c'est quand la droite et la gauche sont d'accord, eh bien, le seul à voter contre, c'est moi. C'est les frappes en Irak, tout le monde vote pour, eh bien, je suis contre. Ça, c'est quand même un trait. Ça veut dire que, oui, comme on rejette tout système droite-gauche, ben, il faut quand même que, à un moment donné, prendre des décisions. Et si on veut vraiment donner un coup de torchon dans tout ça, ben, il faut aller chercher des gens qui sont différents, et moi, je suis différent.
Alors, je voudrais qu'on entre dans le vif de votre projet. Dans ce vif, il y a la décentralisation. Or, la France est un vieux pays centralisateur depuis pratiquement Hugues Capet. Alors, pourquoi bousculer finalement ce vieux réflexe français?
Ah bah oui, mais ça, c'est du bon sens. En fait, c'est la centralisation qui a fait la force de la France. C'est pour ça que l'État est devenu une nation, vous voyez. Alors, mais ça, dans un contexte où les autres pays ne bougeaient pas, vous voyez. On colonisait, on était les rois, quoi. On se baladait. Dans le monde entier, la France était quelque chose. Mais sauf que depuis maintenant près de 30 ans, il y a la mondialisation. Et la mondialisation, alors, les gens ne comprennent pas ce que c'est, mais c'est quand même la libre circulation des informations, des personnes. C'est tout ça. Et ça modifie tout, tout, tout. Et c'est un peu la fontaine, quoi. C'est le chêne et le roseau. Cet État centralisateur, c'est un gros chêne ou avec un certain nombre de gens accrochés à ses branches. Et puis, bah, là, vous avez un tsunami qui va arriver, la mondialisation, et qui va faire tomber le chêne. Et moi, je propose justement que la France s'organise autrement, qu'elle résiste mieux, avec des racines partout. Là, c'est les roseaux, vous voyez. Hein, et puis, eh bien, que pour elle, la mondialisation ne soit pas un problème, mais une force. Sinon, de toute façon, hier je prenais le taxi, la première fois que ça m'arrive, j'ai pris un taxi Uber. Ben, vous voyez, le service est complètement différent, les gens s'organisent. Donc, si on veut que la France reste une nation, eh bien, il faut qu'on ait un modèle qui accompagne. Aujourd'hui, on n'en a pas, donc les gens trouvent des solutions. Le travail, aujourd'hui, on ne va plus à Pôle emploi, on va sur le bon coin. Et les taxis, on prend Uber, et ainsi de suite. Et les gens essayent de faire des lois pour se protéger contre tout ça. Mais le citoyen, lui, il est content de trouver un emploi sur le bon coin. Le citoyen, il est content de prendre un taxi Uber moins cher, avec une meilleure qualité de service. Donc voilà, alors maintenant, je pense que notre modèle a empêché, a gêné nos taxis de se moderniser. Parce qu'ils ne sont pas plus bêtes que les autres, nos taxis. Mais nos lois, en fait, les empêchent de se moderniser. Donc il faut trouver un modèle différent. Alors, c'est peut-être pas le terme décentralisation qui est le meilleur, mais en fait, c'est rapprocher les décisions de ceux qui ont à en vivre. Et à Paris, quand vous voyez, par exemple, sur les rythmes scolaires, un ministre, M. Payon, s'il avait été un an maire d'un village, le plus petit village de France, jamais il a répondu ce texte de loi. C'est dramatique. Et combien de temps il faut après pour corriger tout ça? Parce que on a cette maladie, c'est une fois qu'il y a un texte de loi, on n'ose pas le mettre par terre, on essaie de l'adapter. Mais ça, c'est le pire de bricoler. Vous savez, une voiture, à un moment donné, il faut arrêter de changer le carburateur, l'embrayage, la boîte de vitesse. À un moment donné, tout ça, ça ne marche plus. Il faut prendre une nouvelle voiture. Et la nouvelle voiture là, que je propose, c'est la mienne, une vraie décentralisation, un modèle différent. C'est pour ça qu'il faut d'abord que les gens parcourent ces pages pour comprendre qu'il peut y avoir des solutions sans mettre tout par terre, qui peut permettre à la France de repartir sur une bonne voie.
Donc finalement, plus d'autonomie pour les régions, plus de souplesse aussi dans les prises de décision. Vous voulez accompagner les changements plus que vous y opposez, évidemment.
Bien sûr. Déjà, bon, vous savez, on dit qu'il y a des compétences décentralisées. Par exemple, le logement. Le logement, on dit que bon, c'est décentralisé. La compétence logement, ce sont les agglomérations, enfin, qui ont la compétence. Mais en fait, à chaque fois qu'on bouge le petit doigt, il y a l'État derrière qui surveille. Et en fait, voilà. Moi, je dis qu'en France, il n'y a pas besoin de ministre du logement. Il y a un cadre, mais il n'y a pas besoin de ministre du logement. Le ministre du logement sur l'agglo, c'est le président de l'agglo. Vous voyez, donc c'est aussi simple que ça. Et puis une région, c'est une succession d'agglos, et puis donc tout ça, ça peut se faire correctement. Vous savez, tous les problèmes, l'éducation nationale, la santé, pourquoi il y aura des modèles uniques partout? C'est-à-dire que les problématiques de santé sur la Côte d'Azur sont peut-être pas les mêmes à Strasbourg qu'en Bretagne, que dans le Nord. L'urbanisation, vous voyez bien que pour construire des maisons, une maison dans le Sud, elle n'a pas du tout la même physionomie que celle qui est dans un endroit où il y a un climat continental et où il y a des renversements de température. Donc il faut tenir compte de tout ça. Et là, on a tout centralisé. Vous avez des textes de loi pour tout et qui, en fait, bloquent le pays de 500 000 normes. Du coup, on ne fait plus rien. Tout le monde attend la croissance, mais les élus en permanence mettent des lois qui empêchent la croissance.
À plusieurs reprises, vous avez évoqué la nécessité de réduire de manière drastique la dette de la France. J'aimerais que vous nous expliquiez, je sais que c'est un peu court peut-être, le temps dont nous disposons, mais que vous expliquiez en quoi cette dette menace notre avenir, en quoi elle va impacter la vie quotidienne de millions de Français.
Bah, vous savez, la dette, là, les ménages comprennent bien. Si vous êtes endetté, vous n'arrivez pas à payer. Une dette, vous savez, c'est pas son montant qui est gênant, c'est la capacité à la rembourser. Si vous avez une dette d'1 million et que vous êtes capable de la rembourser sur 10 ans, c'est moins grave d'avoir une dette de 100 euros et d'être incapable de la rembourser. Le problème, c'est que la France, elle a une dette qui est importante et elle ne peut plus la rembourser parce qu'elle est en déficit permanent. Et puis le problème, je fais la comparaison avec le cholestérol, en fait, dans l'endettement, je dis que c'est comme le cholestérol, il y a le bon et le mauvais cholestérol. Pour qu'on soit bien en équilibre, il faut du bon cholestérol, et puis si on a trop de mauvais cholestérol, ça fait un déséquilibre. Alors le mauvais cholestérol, c'est une dette qui est construite par des déficits de fonctionnement. C'est-à-dire que si vous commencez à aller acheter votre pain avec un prêt bancaire, ça dure pas longtemps. Ben, c'est ce qui se passe en France. C'est-à-dire que la dette est essentiellement constituée de dépenses de fonctionnement. Et ça, eh bien, on est obligé d'en mourir. Par contre, s'il y avait la même dette, mais qu'avec cette dette, on ait construit, je sais pas quoi, moi, des autoroutes, installé des satellites, développé des zones d'activité économique, fait un certain nombre de choses, des écoles. Ça, c'est de l'investissement productif, parce que derrière, il y a de l'activité économique, et puis ça finit par se rembourser. Mais on n'est pas dans cette situation-là. Alors, je vous suggère un rapport qui vient de sortir. J'ai terminé au mois de juillet avec deux collègues, hein, un collègue communiste et puis un collègue socialiste, sur la dette française, comment elle est constituée, comment elle est gérée, et puis les risques sur la dette. Donc voilà, voilà mon travail de parlementaire à la Commission des finances. Donc quand j'en parle, je prétends que je sais de quoi je parle.
Et le communiste, le socialiste et le libéral étaient d'accord?
D'accord sur le diagnostic, avec des nuances près, complètement en face sur la gestion, parce que la dette française est très très bien gérée, elle est très bien gérée, là vraiment c'est excellent, ce qui fait qu'on a des frais financiers assez faibles par rapport au montant de la dette. Mais par contre, sur les risques et ce qu'il faut faire derrière, on n'est pas tout à fait d'accord, parce que quoique il y a des, de temps en temps on se rapproche, mais c'est vrai que ma vue n'est pas tout à fait celle d'un communiste. Et étrangement, elle était plus proche du communiste que du socialiste, parce que le socialiste a justifié que tout ça, c'était pas si grave que ça, et que, en fait, enfin, presque l'irresponsabilité de ceux qui ont été aux commandes. Donc, ça, je trouve, hein, alors que le communiste là-dessus était plus proche que moi, mais des garçons que je connais, sympas, on est d'accord sur quelque chose, on n'est pas d'accord.
Nous parlions du chômage dont la France n'arrive pas à guérir depuis 30 ans, mais aussi des travailleurs pauvres dont il n'est pratiquement jamais question dans les débats télévisés. Aujourd'hui, on peut avoir un emploi sans pour autant que vos enfants mangent à leur faim. Quelles sont vos préconisations à ce sujet?
Bah, écoutez, voilà, donc là aussi, ça va bien avec la décentralisation. Aujourd'hui, vous savez, on mesure l'activité avec le PIB. On pense que le PIB, c'est vraiment la somme des valeurs ajoutées. Oui, pour les entreprises qui doivent rendre des comptes à l'État, mais l'activité, tous les jours, vous avez des gens qui font du travail un petit peu partout, sur tous les territoires, qui ne sont pas comptabilisés. Et je pense qu'avec une vraie décentralisation, quand vous rapprochez les activités des territoires, vous rapprochez les décisions des territoires, eh bien, mécaniquement, ça va créer plein de jobs. Vous voyez, en matière de tourisme, on a vraiment une richesse terrible. C'est notre patrimoine. La France est un beau pays. Vous savez qu'au niveau des côtes, la France, c'est le deuxième pays au monde. Et merveilleux patrimoine. On a un patrimoine bâti qui est exceptionnel. Et puis, on a 84 millions de touristes. Alors, on pense que c'est beaucoup, mais si on faisait un peu d'effort, si on donnait de la liberté, on laissait les gens un peu plus faire dans les différentes régions, il y a un tourisme encore plus important. Aujourd'hui, la majeure partie des touristes, ils vont à Paris. Mais c'est pas à Paris qu'il faut qu'ils aillent, c'est dans tous les coins de la France. Et quand vous commencez à faire ça, moi, je vois, par exemple, l'été, je suis en Ardèche, et ben, ça manque de tout un tas d'équipements, des chambres d'hôtes, un certain nombre de choses pour que les gens aient envie de venir. Et puis ensuite, il y a de l'activité qui se développe, ça fait marcher le commerce local. Et tout ça, aujourd'hui, c'est toute une activité qui n'est pas comptabilisée dans le PIB et qui pourra revenir dans le PIB et qui, mécaniquement, générera des emplois. Voilà. Donc, mais on a un système rigide. Aujourd'hui, soit que vous travaillez, soit que vous ne travaillez pas, soit que vous êtes au RSA, soit que vous êtes au SMIC. Mais il y a des solutions intermédiaires. Il y a des gens qui peuvent travailler peut-être de temps en temps chez l'un, chez l'autre. Donc, il faut faciliter tout ça. Donc, si vous rapprochez les décisions de ceux qui vivent ça, eh bien, les textes de loi ne seront pas les mêmes.
Finalement, ce que vous dites, c'est que les Français n'attendent plus que ça. Les idées, elles ne manquent pas. Les Français ont envie de se retrousser les manches, mais c'est pas facile, finalement, dans un pays très administré.
C'est pire que ça. Moi, je pense que les Français, ils ont tous beaucoup d'idées. C'est pour ça que je dis que la France, c'est vous. La France, c'est vous. C'est pas ceux qui sont à Paris. Et ceux qui sont à Paris vous empêchent de fonctionner. Vous savez, une image qui est importante, et celle-ci, je vais essayer de la faire. Si l'Assemblée nationale ferme pendant un an, la France s'améliore. Si pendant un an, vous n'avez plus d'élus locaux dans une commune, la commune, elle est en difficulté. Vous voyez, cette proximité donnée par les élus locaux qui ne touchent pas tous des indemnités, c'est ça qui fait que la France s'active tous les jours. Ces gens-là, ce sont les représentants de la société civile. Et en haut, vous avez des gens qui pensent qu'à faire des textes. Un ministre, quand il est élu, son premier réflexe, il dit qu'il faut que j'ai un texte de loi qui porte mon nom. Et quand il fait ça, le bordel commence.
Le statut de la fonction publique, les enseignants trembleront d'apprendre que vous souhaitez supprimer leur statut de fonctionnaire.
Non, je dis que le statut de fonctionnaire doit être réservé à ce qui est régalien. Et moi, quand j'étais gamin, il y avait un fonctionnaire dans mon village et on le regardait partir le matin. On dit, lui, c'est fonctionnaire, vraiment celui-là très fort. Et maintenant, quand vous voyez quelqu'un partir au travail, dites, regarde-moi, ça, feignant de fonctionnaire, c'est pas normal. C'est un beau métier, fonctionnaire, mais il faut qu'il soit réservé, ce qui est régalien. La justice, la sécurité, la défense, tout ça. Et puis le reste, eh bien, c'est des contrats classiques, privés. Regardez la ville de Chartres, j'ai des chauffeurs, des agents administratifs. Pourquoi ils seraient des fonctionnaires? En plus, ça nous empêche d'embaucher facilement des gens, parce que le système de recrutement des fonctionnaires est très compliqué. Et puis donc, vous créez deux catégories de salariés dans la population. En France, maintenant, il y en a 6 millions, pratiquement 6 millions de gens qui sont des fonctionnaires, qui auront une certaine sécurité, tranquillité, immuable. Et puis à côté, vous avez les gens qui se battent tous les jours. Et puis comme par hasard, de l'autre côté, il y a 6 millions de chômeurs. Je me suis aperçu de quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que depuis 40 ans, le nombre de fonctionnaires augmente de la même façon que le nombre de chômeurs. Alors, de là tirer une loi que quand on crée un poste de fonctionnaire, ça crée un poste de chômeur, eh bien, je pense que c'est pas loin d'être vrai. Voilà. Donc, il faut de la souplesse, comme ça, dans les communes, dans les collectivités, ça nous permettrait d'avoir des mouvements plus faciles. Et puis, toutes ces revendications sur tous les régimes de retraite, tout ce qui suit, tous ces débats tomberaient. On est tous pareils. Dans une ville, là, aujourd'hui, on fait la différence. Lui, il est fonctionnaire et lui, il n'est pas fonctionnaire. Il y a peut-être quelques emplois réservés pour des choses très particulières. Des fonctionnaires qui, eux, n'auraient pas le droit de se présenter à une élection. N'auraient pas le droit. Magistrat, il doit rester neutre. Donc voilà, alors il n'a pas le droit sur le, peut-être, et encore, je ne sais même pas, sur le ressort sur lequel il intervient, mais au niveau d'un pays, il doit garder sa neutralité. Imaginez que vous connaissiez quelqu'un qui, dans une fonction un peu importante, qui collecte les impôts, je ne sais pas, vous dites, lui, il est de droite, lui, il est de gauche. Ben, c'est dangereux, parce que ça veut dire qu'il peut avoir des attitudes en fonction de la personne qui va en face. Il va dire, alors, lui, il est de gauche, je vais m'en occuper. De temps en temps, on l'entend, ça. Donc, voilà, moi, je veux mettre du calme dans tout ça.
Alors ça c'est très bien, mais les fonctionnaires, Jean-Pierre Gange, ce sont aussi des électeurs, vous allez vous mettre à dos une partie de l'électorat français.
Mais non, dans mon livre, j'appelle ça le discours de la méthode. Les gens ne savent pas accompagner le changement. Il y a 5 800 000 fonctionnaires assimilés, il est hors de question de changer leur statut. Ils sont dedans, ils sont rentrés dedans avec des conditions, on ne change pas les règles du jeu en cours de route. Non, c'est pour les nouveaux rentrants. Moi, je dis simplement, la ville de Charles, j'ai des fonctionnaires. Et vous savez, j'étais dans une banque à un moment donné, qui avait, à un moment donné, été passée sous le contrôle de l'État. Dans ma jeunesse, je gérais, j'étais en 79, j'étais commencé à travailler, j'étais chef de service, là, et j'avais des fonctionnaires, des contractuels et des gens d'un statut privé. Donc, on peut accompagner tout ça. Mais les nouveaux rentrants doit être de statut privé. Et ça, ça faciliterait les choses. Moi, j'ai besoin d'embaucher des gens dans la ville et je ne veux pas rentrer des fonctionnaires parce que si je rentre des fonctionnaires, ils sont là à vie, vous voyez. Donc, quelqu'un qui est sur un statut privé, eh ben, il a plus de facilité de mouvement derrière. C'est différent. Donc, moi, il est hors de question de revoir le statut de ceux qui sont dedans. C'est ceux qui rentrent, vous voyez. Et c'est pour ça que des réformes qu'on applique à tout le monde d'un coup, comme ça, à la hache, ça ne passe jamais. Mais si ça s'applique aux nouveaux rentrants, vous ne les connaissez pas, les nouveaux rentrants. Donc ils ne peuvent pas se mettre en grève, puisque de toute façon, ils n'existent pas encore. Par contre, je donne la possibilité à des gens qui attendent de travailler de rentrer dans le système.
Est-ce que finalement, cette frilosité, c'est pas la peur, tout simplement, que peut-être tout Français a aujourd'hui, de perdre son travail?
Mais alors, attendez, vous pensez à ceux qui n'en ont pas, vous? Donc ça veut dire qu'il y a quelques-uns qui sont comme ça, ils sont coincés? Et on touche à rien, et puis tous ceux qui sont dehors, mais attendez, vous savez ce que vous allez avoir comme révolution? Vous allez voir, c'est la jeunesse. Aujourd'hui, les votes du Front National, c'est quoi? C'est les jeunes, quelques personnes âgées qui ont peur, ce sont surtout les jeunes. Mais c'est ça la faillite du système, quand c'est les jeunes qui vont voter Front National, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Donc si les gens pensent qu'ils vont pouvoir bloquer le système pendant longtemps, moi je vous garantis que ça va. Quand vous dites la rue, ça va pas être le même genre de manifestation, hein.
L'immigration, la lutte contre l'islam politique et plus largement les questions identitaires seront au cœur de cette élection, hein, n'en pas douter. Quelle est votre vision de l'identité française et quelles sont vos propositions en matière de politique migratoire? Mais d'abord, votre vision de l'identité française.
Bon, moi, vous savez, l'identité, alors moi je parle pas d'identité heureuse, je pense que ça veut dire, faut, franchement, la politique, vous voyez, il faut vraiment, là, il faut avoir fait l'ENA pour parler de ce genre de choses. Imaginez demain, s'il y a une bombe qui explose, vous allez voir comment ça va être mis en cause. Non, mais le français, c'est celui qui est sur le territoire, qui partage tout ce que propose la République. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Et donc, qu'est-ce qu'on veut inventer là-dedans? Et puis alors, sur la partie immigration, les gens confondent tout. Vous voyez, on mélange. Alors d'abord, le flux migratoire classique, parce que tous les pays sont constitués comme ça. Vous regardez la France, il n'y a pas besoin d'aller loin. Sur le dernier siècle, vous regardez nos relations avec les Polonais, les Italiens, les Portugais, même le Maghreb, tout ça, bon, c'est des choses qui ont bien fonctionné. Là, il y a un épiphénomène qu'il faut traiter, qui est lié à des régions déstabilisées. Et on participe à la déstabilisation de ces régions-là, hein. C'est peut-être le résultat de tout ça. Bon, bah, ces choses-là, ça se gère. Il faut, moi, je dis dans mon livre, il faut aborder les choses par la démographie. Quelle population on veut en France dans 25 ans? Est-ce qu'on veut 100 millions? Ou est-ce qu'on veut 50? Si vous voulez 50, on est trop nombreux. Donc, c'est plus le problème des flux migratoires. C'est-à-dire qu'il faut faire autrement, là. Il faut en exporter. Et puis, si on en veut 100 millions, ben, il faut avoir une politique de la famille et puis une réflexion sur les flux migratoires différentes. Donc, j'aborde le sujet par la démographie. Bon, ce problème, il faut le traiter comme ça. Et puis, une fois qu'on est dedans, eh bien, pour moi, vous savez, c'est le critère, quand je vois des gens, savoir si c'est en français ou pas, les gens qui maîtrisent la langue, ils se sont intégrés, parce que maîtriser une langue, c'est compliqué, et d'ailleurs, vous avez des gens ici de l'immigration qui parlent mieux français que des Français de souche, donc ouais, pas un problème. Mais ensuite, vous avez des problèmes comme les migrants type Calais. Mais à Calais, ces gens-là, ils ne veulent pas s'installer en France, ils veulent aller en Angleterre, c'est un autre problème. D'ailleurs, quand on veut les remettre, les étaler dans le territoire, c'est d'une stupidité. Le problème, il est avec l'Angleterre. Si vous n'aviez pas un tunnel et la Manche entre les deux, ils auraient pris la route. Donc ils sont bloqués là, ils ne veulent pas de la France, ils veulent aller en Angleterre. Donc ça se traite différemment. Voilà. Puis ensuite, vous avez la migration temporaire, comme on le fait. Moi, de temps en temps, je passais du temps en Grèce, je vais dans des pays du monde, je vais en Afrique, et voilà, je reste pas. Donc tout ça, faut que ça cohabite correctement. Pour l'immigration, justement, pour mettre au clair tout ça, puisque tout le monde parle de n'importe quoi, personne connaît les capacités du pays. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas en capacité d'accepter les flux qui sont actuels. Ça, je le vois, parce que je suis maire. Le logement, les hôpitaux, les écoles, tout ça, bon, on n'a pas les moyens. Donc, si vous en rajoutez, ça va être un problème. Et quand ça devient un problème, alors là, on stigmatise le migrant. Enfin, l'immigrant. celui qui a immigré. Et donc, moi, je propose un moratoire de 2 ans, qu'on fasse une vraie situation. Quels sont nos enjeux démographiques? Derrière, qu'est-ce qu'on peut accepter aujourd'hui, hein? Quel projet on a en matière de démographie? Et puis derrière, quelle politique de la famille? Quelle politique d'immigration?
Deux mots sur l'islam politique. Récemment, nous avons reçu à la radio Nadia Redmadna, qui était la fondatrice de la Brigade des Mères à Sevran, qui dénonce depuis des années la montée du salafisme dans certaines villes de banlieue de France, nous disant qu'il était impossible pour elle, pour une femme, de boire à la terrasse d'un café à Sevran aujourd'hui. Est-ce que vous avez des propositions à faire pour lutter contre finalement cette invasion idéologique?
Oui, mais vous savez, je comprends. Alors, ce qu'elle dit, c'est inacceptable et on ne peut pas empêcher les femmes. C'est là où je dis qu'il faut coller à la République. La République, il ne peut pas y avoir une différence entre les femmes et les hommes. Alors, l'histoire du burkini, c'est encore un peu plus compliqué, mais ce qu'elle dit, ce n'est pas acceptable. Donc, s'il y a des gens qui empêchent ça, ils doivent être condamnés. Donc, il faut que la loi, là, fonctionne correctement. Vous voyez, c'est ça, c'est la partie régalienne. La loi doit protéger pour que ça ne puisse pas se passer. Mais comme il y a un laxisme qui s'est installé, parce que je pense que la justice n'a pas tous les moyens qu'il lui faudrait pour traiter ce type de problème. Vous savez, le premier problème de la justice, c'est que s'il y a trop de décalage entre le moment où un fait est commis et le moment où on est intervenu pour le juger, eh bien, ça rentre dans l'opinion, on en parle. Et plus c'est long, plus les médias... Pour les médias, c'est du pain béni, puisque quand vous avez un phénomène comme ça, eh bien, vous arrivez à mettre les Français comme ça, à les faire s'inquiéter. C'est un peu facile. Le problème, c'est une personne à Sevran. Moi, j'étais en Ardèche, j'ai pas vu de tout ça. La France, 99% de la France est tranquille. Alors, je pense qu'il y a de l'excès dans la médiatisation de toutes ces choses-là. Et puis d'ailleurs, ça suscite de l'envie chez d'autres. On oublie tous les problèmes des Français, et puis vous vous rendez compte que pendant l'été, pendant que moi je finalisais d'écrire un projet pour le pays, le débat c'était le burkini. Mais vous rendez compte, tous les politiques, il fallait éluder rapidement cette problématique. Alors il y en a qui se sont amusés, parce que quand on fait un arrêté contre le burkini, on sait que ça ne peut pas passer. On sait que la loi de 1905 fait que la soutane est un habit normal. Donc voilà, donc comment vous faites pour empêcher que quelqu'un se baigne un burkini et puis demain, c'est plus un burkini, c'est autre chose. Donc ceux qui ont fait les arrêter, ils le savent très bien, donc tout ça, il y a des recours, ça va au Conseil d'État dit que c'est pas bon, donc la polémique est créée, les gens se font un peu de pub. Bon d'ailleurs, vous avez vu qu'en Corse, quand le burkini est accompagné de la privatisation de la plage, donc là, c'est interdit et son arrêté en Corse... Il est efficace, vous voyez. Donc voilà, donc je pense qu'il y a des surmédiatisations. Alors comme on rentre dans un contexte électoral, ça va être encore exacerbé, les gens vont mettre encore un peu plus. Mais là, on s'éloigne vraiment des problématiques de la France. Et on est en train de nous dire, aujourd'hui, la présidentielle, ça sera un débat sur l'identité. Donc si ça se résume à ça, je pense que le pays est foutu. Il faut remettre la discussion sur les fondamentaux. Et je dis que quand on en est arrivé à ce type de discussion, c'est parce que on essaye de camoufler le reste. Tous ceux qui sont là ont intérêt qu'on parle de ça parce qu'ils ont tous été aux commandes. À droite comme à gauche, c'est tous des anciens ministres. C'est quand même terrible. Vous vous rendez compte? Et les gens disent ils veulent rejeter ce système. Eh bien, ils ont l'occasion, là. Vous voyez, ils ont un candidat qui n'en fait pas partie et qui passe pas son temps à parler du burkini, mais faire des propositions pour la France.
Vous êtes donc maire de Chartres depuis bien longtemps et beaucoup s'accordent à dire que vous avez plutôt réussi. L'économiste Michel Godet a consacré un chapitre à votre bilan dans son livre « La France des bonnes nouvelles ». Je voudrais savoir ce que vous avez appris sur l'art de gouverner et de gérer depuis toutes ces années.
C'est sûr qu'en 15 ans, vous savez, la conduite du changement, quand vous êtes informaticien, vous connaissez ça, puisque c'est en permanence, puisque les systèmes d'information évoluent tous les jours, donc accompagner... les gens dans les changements, bon, il y a différentes techniques. Alors, ça peut être brutal, ça peut être soft. Vous savez, moi, je vous le disais tout à l'heure, comment je fonctionne, je me fais une philosophie de la ville. Je suis pas de la ville, moi, je suis un rural. Je suis passé toute ma jeunesse dans la campagne, plutôt dans les bois. Donc, la ville, je l'ai appris un peu ici, pas dans la ville avant. Donc, mais je me fais une philosophie de ce que peut être une vie agréable dans une zone urbaine. Alors maintenant, je suis obligé d'y réfléchir avec la zone périurbaine et la zone rurale autour. Donc je me fais une philosophie. Ensuite, sur chacune des problématiques, je vous le disais tout à l'heure, je réfléchis le plus loin possible. Bien sûr, j'écoute énormément, puis j'ai une équipe. Vous savez, si je fais tout ça, c'est parce qu'autour de moi, il y a des gens merveilleux. Regardez tous les gens qui sont à travailler depuis 2001 autour de moi. Et donc, je réfléchis le plus loin possible. On se fait aider. Il y a des spécialistes. Vous savez, toutes les transformations des quartiers, c'est des marchés d'études et définitions. C'est des architectes urbanistes. C'est pas moi qui connais tout ça. Par contre, j'ai la capacité à les faire travailler ensemble et à un moment donné, sortir plusieurs variantes pour qu'on puisse choisir. Voilà. Et puis, une fois que c'est choisi, je vous le dis, j'ai le culte de la réalisation. C'est comme ça, ça, depuis que je suis tout petit. Beaucoup d'argent dans ma jeunesse, mais j'avais un mécano tous les ans. Ouais, les numéros, vous savez, les numéros qui grimpent. Et puis là, avec ces petites clés de tournevis, tout ça, bah, je montais des choses différentes et ça me passionne. Je suis un grand bricoleur. J'ai une maison à la campagne, je bricole beaucoup. J'adore ça. Et donc, à un moment donné, je dis, il faut passer à l'action. Et vous savez, c'est la problématique du joueur d'échecs. Le joueur d'échecs, il se fait une philosophie du jeu. À un moment donné, il y a l'échiquier, il est obligé d'analyser les situations. Puis il y a la pendule à côté. La pendule a dit, maintenant, ton coup, il faut le jouer. Sinon, tu perds la partie. Là, c'est pareil. Il y a le temps politique qui dit, voilà, il faut faire. Vous voyez, ce bâtiment qui est en train de se transformer. Je suis resté au milieu du chantier. Vous voyez, il y a du bruit, tout ça. Ça me fait tellement plaisir d'être au milieu, de voir les choses se faire. Voilà, c'est ma manière de fonctionner. Donc, ça a réussi à Chartres. Il y a des gens qui le disent, on me le dit, j'étais avec un journaliste hier aussi, il me disait, tiens, Chartres, l'exemple Chartres, il me parle de ça. Donc, l'objet, moi, c'est de dire, vous voyez, à Chartres, je réussis. Et je dis aux Français, avec moi, vous n'êtes pas sûr que ça va marcher, mais avec eux, vous êtes certain que ça n'a jamais marché. Donc, dans le doute, essayez-moi.
Vous êtes donc candidat à l'élection présidentielle, maintenant, il va vous falloir trouver 500 signatures. Est-ce que vous pensez les trouver facilement? Est-ce que vous n'avez pas peur qu'à droite, on vous mette des bâtons dans les roues?
Ah bah ça, s'il commence par dire ça, c'est super parce que c'est la plus belle des publicités. Ça veut dire que s'ils disent ça, c'est que je suis quelqu'un d'inquiétant. Non, le pire pour moi, c'est le silence. Enfin, j'aurais pas le dire, mais si je leur donne quelques idées, le pire, c'est le silence. Dire que chacun est de gauche comme de droite, parce que je vais déranger tout le monde. De dire, écoutez, on n'en parle pas. Si on commence à m'embêter, à me gêner, vous avez vu Madame NKM, ce qu'elle a fait, elle a fini par avoir ses signatures. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être des idées, un projet, il y a des choses. Donc, voilà. Alors, moi, je ne vais pas vous l'expliquer là, mais j'ai fait une certaine idée du comment faire. D'ailleurs, spontanément, il y a deux personnes qui... Vous voyez, je n'ai même pas commencé. J'espère qu'il y aura 50 de mes pairs, des maires, des conseillers départementaux, régionaux, d'Eure-et-Loire, qui signeront pour moi. Vous voyez, il m'en faut 500 sur 30 départements, avec pas plus de 10% par département, c'est-à-dire pas plus de 50. Mais si je commence avec 50 en Eure-et-Loire, et que je montre, vous voyez, dans mon département, je suis suivi largement, et donc, eh bien, je connais quand même le réseau des maires, je connais le réseau des parlementaires, et eh bien, j'irai les voir, et puis, si j'arrivais pas à avoir ces 500 signatures, parce que je n'envisage pas, mais voilà, c'est comme ça. C'est la seule, je dirais, préqualification que j'accepte. Les primaires, vous vous rendez compte? Il y a une préqualification, ensuite il y a une qualification, puis ensuite il y a l'élection présidentielle. Même les anciens présidents de la République passent par des préqualifications. C'est-à-dire que M. Sarkozy était obligé de montrer patte blanche. Il fallait qu'il y ait un certain nombre de députés, qu'ils soutiennent des militants et puis d'un certain nombre de grands électeurs. C'est pas ça la Ve République. La Ve République, c'est la rencontre d'un homme avec le peuple, mais un homme qui porte un projet, qui l'incarne. Moi, je suis plutôt dans cette philosophie-là. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis, vous savez, la soupe, c'est une cuillère derrière l'autre, et je fais ça, mais je suis quand même quelqu'un de très organisé, et le tempo d'une élection, depuis 95, rappelez-vous, en 95, moi, je fais une campagne pendant 6 ans, là, je me dis, c'est une campagne, c'est 6 mois, donc c'est un tempo accéléré, parce que c'est national, c'est plus médiatisé, donc voilà, je le disais ce matin dans le journal, en 2000, mi-2000, j'étais à zéro dans les sondages à Chartres. À la fin de l'année, on me donnait 3%. 3%, donc voilà. Mais ce qui est important, c'est dans le mouvement, c'est, je dirais, c'est la dérivée première. Si vous progressez ou vous régressez. À la primaire des Républicains, j'en ai vu partir très très haut, ils sont en train de descendre. Vous voyez ? Eh bien moi, si je suis à zéro aujourd'hui, j'espère qu'à la fin de l'année, je serai à 3%. Et puis au mois de mars, quand j'aurai les signatures, je serai à 10%. Et puis au premier tour de la présidentielle, je serai à 22,5. Exactement le score de Chartres, 22,5. Et puis 22,5, ben, je ne serai pas premier, je serai deuxième. Mais au deuxième tour, quel que soit le candidat, je le battrai.
Vous êtes en train de fonder votre propre mouvement, La France et vous, c'est le titre de votre livre. Quels sont vos soutiens sur le plan local et national? Est-ce que vous avez déjà des relais? Je pensais par exemple à Michel Godet. Michel Godet, est-ce que Michel Godet, il pourrait faire partie de votre mouvement?
Oh, bien sûr, mais attendez, vous savez, j'ai plein de gens qui m'appellent, tout ça. Michel Godet, là, je lui ai envoyé un message. C'est parti, point d'exclamation, c'est tout. Donc ces gens-là, moi, ce que je veux, c'est fédérer la société civile. À un moment donné, je dis dans mon livre, c'est que je voudrais créer la Dream Team, les 100 qui font, qui se battent pour la France, avec ces gens-là, affiner le, faire transformer le projet en un programme pour une élection, et ensuite faire l'équipe qui derrière sera aux commandes. Vous voyez, c'est différent que d'aller chercher des parlementaires qui ont été des fidèles. Vous voyez, quand Nicolas Sarkozy, qui est son premier ministre, ça sera Barouin. Vous voyez que le système est complètement fermé. Il a déjà le nom de ministre de l'Intérieur, ministre des Finances, ministre de l'Éducation nationale. Bon, voilà. Donc moi, je suis pas dans ce schéma-là. Je suis dans un autre schéma.
Cette Dream Team, c'est en train d'avancer?
Eh ben voilà, je fédère. Alors pour le mouvement, vous savez, le mouvement, je dépose des statuts. Faut pas aller plus vite. Vous savez, ceux qui commencent par acheter une permanence. J'ai vu un candidat à la primaire, il a commencé il y a un an, il fait une première réunion avec 2000 personnes, très bien, 120 000 euros. Ah, c'est, alors moi, on me dit, tiens, il faudrait que tu achètes une permanence où? À Chartres, ou ça à Tillé-le-Penneux, ou ça à Saint-Pierreville, à Nice, ou comment vous faites? Si vous mettez des permanences, il faut en mettre partout, donc ça n'a pas de sens tout ça. Donc ça, c'est, commence par la dépense, c'est pour ça que les gens se battent pour avoir l'argent du parti, vous comprenez? C'est parce que une campagne, ça peut aller jusqu'à 22 millions. Si vous avez 22 millions du parti, c'est pas mal, c'est bien. Et là, vous êtes du monde autour de vous. Moi, je pense que ce qui va fédérer, c'est le projet. Alors qu'ils n'ont pas établi de projet, ils ont déjà les permanences, des gens, ils ont du monde partout. Ça, c'est le système. Donc, c'est là-dessus qu'il faut mettre un coup de pied. Quoi. Donc, il faut mettre un grand coup de pied et puis voilà, puis faire tourner la France autrement.
Une dernière question, une fois que vous aurez obtenu vos signatures, qu'allez-vous faire au niveau de la communication du plan média, par exemple? Est-ce que ça, c'est un sacré boulot aussi, pour se faire connaître 2 millions de Français?
Vous savez, si j'ai 500 signatures, mon plan média, c'est vous qui le ferez. Oui, imaginez que, je pense, je vous la fais à la Bigard, admettons, vous avez Nicolas Sarkozy, François Hollande, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Jean-Pierre Gorge. Les gens vont voir ce que c'est, tout ça. Donc, ils vont en parler partout. Et puis, plus ils vont lire le livre, plus ils vont m'écouter, plus ils vont voir le programme, plus les habitants vont se dire, tiens, est-ce que c'est pas idiot, là, ce qu'ils proposent? Et plus les sondages vont dire, tiens, ils montent. Ce qui est important, c'est la pente. Quand vous passez de 3 à 5, c'est plus important. Hein, enfin, vous êtes dans une meilleure dynamique que celui qui passe de 25 à 20. Rappelez-vous Édouard Balladur. On appelle ça la balladurisation. Hein, vous êtes très haut, Jacques Chirac 10 en décembre 94, hein, et puis Édouard Balladur très haut, et puis à la fin, et ben, ils se sont croisés dans l'escalier et Chirac a été élu. Voilà, donc ici, une campagne électorale, c'est la dynamique. Hein. Regardez, Alain Juppé, les gens disent c'est Juppé qui va gagner, mais quelqu'un qui descend comme ça un peu tous les jours, voilà, c'est juste. Un vécu de maintenant 95-2017, c'est vrai, ça fait déjà 20 ans, enfin 2016-2017, ça fait 20 ans d'observation. Moi, je m'aperçois que c'est celui qui a la dynamique qui gagne.
Vous êtes impatient d'en découdre, on sait quelle énergie vous anime, vous êtes impatient de l'employer de la...
Non, moi je ne suis pas impatient, justement, je n'ai jamais été autant serein. Vous savez, moi, j'ai été vraiment serein quand... ça doit être le 16 août ou le 17 août, j'ai eu le bon à tirer du jeu. Parce que c'est terminé pendant les vacances, tout ça. Hein. Donc pendant que tout le monde bronzait, moi, je n'ai pas trop bronzé. Il faut relire, corriger. Et donc là, hop, soulagé, serein. Pour moi, le pire, ça aurait été de un jour quitter la politique sans avoir écrit ça. Franchement, je dis, bon, alors, je vous dis, j'aurais pu ne faire qu'écrire le bouquin. Et puis dire à tous ceux qui se présentent partout, regardez, c'est intéressant. Si vous voulez, je peux vous aider parce que ça, il faut le faire. Bon, j'ai pas pris ce... Je vous garantis, jusqu'au dernier moment, j'ai attendu le dernier moment pour savoir si j'écris la phrase. Elle a été écrite, elle a été retirée. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Au dernier moment. Vous voyez, comme quoi, si ça n'avait pas été abouti, j'aurais pas mis ça. Mais comme je pense que le projet est abouti, je l'ai écrit. Et là, maintenant, serein, mais dans un tempo bien réfléchi. Je sais que la primaire va occulter un certain nombre de choses. Ils vont être 8 à s'écharper à la télévision. Et puis la gauche va engager la sienne. Donc de chaque côté, ils vont s'écharper. Mais quand il restera un survivant de chaque côté, qu'il y aura des morts partout, les morts ne parleront plus. D'accord ? Donc les deux autres ne seront pas suffisants pour alimenter le débat. Eh bien, c'est là que j'apparaîtrai. Voilà. Donc à partir du 27 novembre, vous verrez qu'il y a un intérêt à la candidature de Jean-Pierre Georges.
Merci beaucoup et rendez-vous le 27 novembre.
Thank you. Thank you.